Vous écoutez, on lit pour vous.
Les îles de la Madeleine imposent une taxe touristique de 30 $. Un texte de Sébastien Tanguy paru le 4 avril 2024 dans Le Devoir. Après un an et demi de gestation, la redevance touristique s'apprête à devenir réalité aux îles de la Madeleine. À partir du 1er mai 2024, toute personne de 13 ans et plus devra acquitter 30 $ plus taxes pour réaliser un séjour de plus de 24 heures sur l'archipel, à concurrence de 100 $ plus taxes par famille. La municipalité des îles de la Madeleine estime que cette ponction, encore inédite au Québec, lui permettra de récolter 1 million de $ annuellement. Cette somme servira à garnir le Fonds de gestion durable du territoire, une cagnotte consacrée au maintien et à l'amélioration des infrastructures touristiques, à la protection de ce fragile territoire et à la saine gestion des matières résiduelles pendant la haute saison touristique. L'obtention de la passe archipel sera nécessaire du 1er mai au 14 octobre pour quiconque effectue un séjour de plus de 24 heures aux îles de la Madeleine. Le paiement devra être effectué en ligne, sur une plateforme sécurisée, avant la fin du passage aux îles. Le visiteur obtiendra alors un code QR que les autorités pourront vérifier à la sortie du territoire. Les contrevenants s'exposeront à une sanction pouvant atteindre 1 000 $. Les personnes qui réalisent plusieurs séjours dans l'archipel devront acquitter la redevance à chaque entrée. Toutefois, elles pourront demander un remboursement rétroactif à partir du deuxième passage pour ne payer qu'une seule fois la nouvelle ponction. Les propriétaires d'une résidence principale ou secondaire aux îles de la Madeleine bénéficieront d'une exemption, contrairement aux travailleurs et travailleuses temporaires qui devront débourser la somme demandée si leur séjour prend fin avant le 14 octobre. La municipalité calcule que les touristes séjournent en moyenne 10 nuitées sur les îles. La passe archipel, maintient-elle par communiqué, représente donc une somme de 3 $ par jour pour bénéficier de tout ce que les îles ont à offrir, alors qu'ailleurs, d'autres villes ou municipalités mettent en place des stationnements ou des services payants. Les autorités comptent exercer des contrôles aléatoires aux points d'entrée et de sortie, comme l'aéroport ou le port, pour surveiller l'application du règlement. La municipalité dit d'abord compter sur la bonne foi des gens et misera sur une campagne d'information pour expliquer les tenants et aboutissants de la nouvelle redevance. Les détails du nouveau règlement ont fait l'objet d'une séance extraordinaire du Conseil municipal, mercredi le 3 avril 2024, aux îles de la Madeleine. Une dizaine de personnes ont assisté à la réunion et ont interrogé pendant près d'une heure les élus. Petit à petit. Pour Jackie Poirier, porte-parole du comité Oui à une gestion municipale responsable, le flou qui entoure la mise en place de la redevance relève de l'improvisation. Il craint également que la ponction décourage les touristes de visiter l'archipel. C'est une goutte de plus qui peut faire déborder le verre d'eau, a-t-il indiqué, avec l'augmentation du coût de l'essence et tout. Il ne faut pas banaliser les 30 $. Ça fait un an et demi que nous sommes dans l'élaboration d'une réglementation, a rétorqué le maire Antonin Valiquette. Ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué, merci. On aurait bien aimé ça pouvoir sortir, jour 1, avec un beau modèle applicable, tout de suite, qui n'a jamais été fait auparavant. Mais non, il faut qu'on y aille petit à petit. Moi, je ne suis pas gêné du 30 $. A renchéri un autre Madelineau. Ce n'est pas toujours aux citoyens de payer pour les infrastructures. Une dame a manifesté ses interrogations quant à la pertinence d'imposer la redevance aux personnes qui se rendent au chevet d'un malade ou qui assistent à des funérailles. Je ne pense pas qu'elles vont profiter ben des infrastructures récréo-touristiques, a-t-elle avancé. Comprenez la difficulté de faire des cas d'exception comme ça, a répliqué le maire Valiquette. Là, Ça commence à être très compliqué à gérer administrativement, a-t-il ajouté, en soulignant que la mesure entrera dans sa première année d'implantation et que l'apport de correctifs demeurera possible en cours de route. C'était « Les îles de la Madeleine imposent une taxe touristique de 30 $ », un texte de Sébastien Tanguy paru le 4 avril 2024 dans Le Devoir.
Trois raisons de lire Céline après René d'Ève Landry, un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Sur la route. Le titre capte tout de suite l'attention, car à moins que l'on ait déserté la planète Terre au cours des dernières années, les prénoms Céline et René mis côte à côte font tout de suite référence à la chanteuse québécoise et à son mari et impresario. En y regardant de plus près, on découvre cependant qu'au bout de René, la lettre E a été ajoutée. Mais la curiosité est piquée et le choix de l'autrice d'appeler ses personnages comme le couple mythique permet de mettre l'éclairage sur des personnes qui en reçoivent habituellement peu. En effet, le roman s'ouvre au moment où Céline Dolbeau, 81 ans, est assise dans un taxi la ramenant chez elle. Elle vient d'assister aux funérailles de René Sinclair, sa conjointe. 1. Pour le sujet rarement abordé. Il n'est pas très fréquent de retrouver en littérature une héroïne âgée, endeuillée et lesbienne. L'autrice Ève Landry fait non seulement le pari de mettre un tel personnage au centre de son livre, mais elle lui attribue un tempérament actif, donnant l'élan nécessaire pour concrétiser cette idée, partir en voiture et visiter l'Amérique. En décidant de mettre ce projet en pratique, elle réalise un des rêves de sa douce et, de cette façon, lui rend une sorte d'hommage post-mortem. Par ce voyage, Céline prolonge l'enthousiasme et l'énergie de leur amour, parce que si l'enveloppe corporelle de sa femme n'est plus là, le lien les ayant unis pendant toutes ces années s'avère encore bien présent. 2. Pour la construction narrative du récit. Le texte est narré par une voix omnisciente s'adressant à René, l'absente. Elle lui relate ce qui se passe depuis sa mort et lui souffle les pensées et les émotions de Céline. Cette décision de l'autrice renforce l'impression d'ardeur du sentiment éprouvé par les amoureuses, toujours vif, puisqu'on ne se trouve pas uniquement dans la mémoire du souvenir. D'où elle est, et sous une autre forme peut-être, René existe toujours. Elle s'incarne par ailleurs à travers celles et ceux qui l'ont aimée, Céline évidemment, mais aussi ses enfants, ses amis. Les vivants portent en eux le legs de la disparue et honorent ses parcelles en les transmettant à leur tour. 3. Pour éviter les lieux communs. L'autrice n'entretient pas le cliché de la personne âgée en proie à l'ennui et au désœuvrement sans posséder vraiment de personnalité constituante. Oui, René manque terriblement à Céline, mais celle-ci a du ressort et tente tout ce qu'elle peut afin de ne pas céder au chagrin paralysant. En se mettant en mouvement, elle se donne la chance de survivre tout en célébrant sa tendre moitié qui, grâce à elle, vivra l'aventure par procuration. L'amitié qu'elle développe avec le personnage d'Ed, le cuisinier de la résidence où elle habite, éloigne également les clichés. Faisant fi des 5 décennies entre eux, leur complicité, empreinte d'humour, se déploie et ne s'embarrasse d'aucune convention. C'était « Trois raisons de lire Céline après René » d'Ève Landry. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Lueur. Une chronique de Dominique Lemieux, parue le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. L'année nouvelle débute à peine, c'est l'heure des résolutions, des espoirs partagés, des rêves à nourrir. L'année nouvelle débute à peine et on voudrait croire que tout ira, on empile les vœux chaleureux pour les uns et les autres. Pourtant, le monde n'invente plus que des craquements, des sursauts. Quelle lueur pouvons-nous espérer cueillir dans les replis des jours de vent? En octobre dernier, la ville de Québec accueillait les représentants-représentantes d'une 40aine de villes qui porte comme elle la désignation de ville de littérature reconnue par l'UNESCO. Ce rendez-vous a permis de déployer davantage ce réseau international, de faire naître des collaborations, en plus de célébrer la vitalité littéraire de Québec et de Wendake. Je retiens 1000 souvenirs heureux des quelques jours de cette rencontre, bien que je demeure ébranlée par les troublants témoignages de nos courageuses amies ukrainiennes de Lviv et d'Odessa. Je n'oublierai jamais cette discussion avec Maya, consœur d'Odessa, qui me racontait, émue, tout ce que sa ville et ses proches avaient traversé. Elle m'avouait ne pas avoir dormi une seule nuit complète depuis février 2022, chaque jour, les sons étourdissants, les alarmes, les cris, la destruction. Et pourtant, Maya travaille avec acharnement, sans moyens financiers, pour soutenir les artistes de sa ville, pour rendre la littérature accessible. Le monde craque et elle résiste. Quelle lueur pour Maya et pour celles et ceux qui vivent au cœur de ces atrocités. Survivre. Caroline Vu, écrivaine et médecin de famille montréalaise, a grandi en pleine guerre du Vietnam avant de fuir son pays natal au début des années 1970. Elle avait alors 11 ans et a dû tout recommencer, d'abord aux États-Unis, puis au Canada. Cette histoire fondatrice, la guerre, l'exil, la perte, continue à l'habiter, le sujet s'invitant dans les trois romans qu'elle a publiés jusqu'ici, tous parus en français chez Pleine Lune. Son plus récent, Boulevard Katina, une succession de courts chapitres qui crée un rythme haletant, s'étend sur presque 6 décennies, se promène de Saïgon en pleine guerre du Vietnam jusqu'à New York et suit deux amis qui, d'une enfance commune, prennent des chemins opposés. May se lie avec des soldats américains et Maylie rejoint la résistance communiste. On côtoie aussi Nat, le fils de May né hors mariage d'un père GI afro-américain et abandonné dans un orphelinat. Les récits de chaque personnage s'entrecroisent pour déplier une version qui s'approche d'une forme de vérité. Amoncellement de scènes incarnant le meilleur et le pire de l'amour et de l'amitié, enfilade d'abus, de mensonges, de racisme, de lutte pour échapper aux horreurs. Caroline Vu offre parfois avec humour, toujours avec compassion, un regard éclairant sur ce que peut provoquer une guerre atroce sur celles et ceux qui survivent. Quelle lueur pour les gens qui restent! S'équilibrer. La créativité irremplaçable de Mireille Gagné scintille une fois de plus avec « Frappe à bord », ce roman qui succède au Lièvre d'Amérique qui avait tant fait parler en 2020. Celle qui oscille de belle façon entre la poésie et la fiction offre une nouveauté qui parle de cette planète qui s'épuise et s'invente des zones de résistance. Ce roman siffle en trois volets, un premier où on s'installe dans l'esprit d'un frappe-à-bord, mouche qui, avec ses semblables, font des ravages dans la région de Montmagny, un deuxième où, dans un futur proche de canicule, un certain Théodore travaille dans une usine de ressorts pendant qu'une vague de violence inhabituelle fait la une des médias, et enfin un troisième où on s'aventure sur Grosse Île en 1942-1943, alors qu'une trentaine de scientifiques, dont l'entomologiste Thomas, sont réquisitionnés par l'armée afin de travailler sur différents programmes liés à une potentielle guerre bactériologique. Ces histoires s'entrecroisent, se défient, s'éclairent, et c'est là le talent de Mireille Gagné de maîtriser avec efficacité chaque ficelle afin de construire un tout cohérent, prenant qu'on décrypte avec attention. Gagné glisse cette phrase autour d'un chapitre « L'équilibre est à retrouver », un résumé du livre en 5 mots, et pourtant on n'y croit pas trop. L'équilibre peut-il exister? Quelle lueur pour l'humanité! Avancer. Elle n'est plus revenue. C'est ainsi que, dans « Tu vis à Paris, je pense » de Sarah Rocheville, une femme parle de l'abandon de sa mère alors qu'elle avait à peine 7 ans, un abandon qui définira à jamais l'existence de cet enfant. Cela s'est passé une nuit d'avril, disparition, aucune explication, au matin, deux enfants laissés à eux-mêmes. La narratrice alterne entre les fragments d'une vie racontée, blessures, questionnements et la description de l'existence fantasmée de cette mère disparue, supposition, possibilité, une histoire peut exister si on l'invente. Les années ont passé sans que les réponses ne surgissent, les conséquences néfastes, peur, pensées noires, douleurs et autres fragilités. Le père s'est réfugié dans un chalet dans la Naudière, le frère vit en Angleterre où il fait de la recherche scientifique et la narratrice mène une vie tranquille à Sherbrooke où elle enseigne le piano. La fille écrit ce livre avec l'espérance d'un amour toujours présent, avec l'envie de la vie démultipliée de cette mère, avec cette tentation de crier parfois « Reviens !» avec cette honte de ne pas avoir été digne d'amour. Peut-on faire la paix avec un abandon sans adieu? Comment peut-on faire confiance et continuer à avancer? Peut-on ne pas se méfier de tout, notamment de sa propre histoire? Ce livre parle on ne peut plus dignement de l'enfance, des blessures que l'on traîne, de ce qui continue de nous hanter des années plus tard. Quelle lueur pour les abandonner! De ces trois livres, une lueur peut-être, celle de l'invention comme réparation, celle de la littérature pour s'ouvrir les yeux un peu plus grands. C'était « Lueur », une chronique de Dominique Lemieux, parue le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ». Avez-vous lu « Enfance » de Nathalie Sarraute, publié en 1983? Un texte d'Éden Giraud, paru le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ». Parce qu'il est agréable de revisiter nos classiques, une libraire indépendante partage avec vous un livre qui, loin d'être une nouveauté, mérite encore qu'on s'y attarde. Il n'est jamais trop tard pour découvrir un bon livre. On sent son influence chez... On retrouve ses théories chez Jean Echenot et Jean-Philippe Toussaint avec leurs expérimentations littéraires. Cette influence est présente aux éditions de Minuit, maison d'édition qui a poussé le nouveau roman dans ses débuts et qui édite notamment ses deux auteurs. On a critiqué. L'autrice fait partie du mouvement littéraire du nouveau roman, rejetant les notions de héros, de réalisme et les règles romanesques classiques pour réinventer une autre forme d'écriture. Elle théorise le nouveau roman qui passe inaperçu puis qui est mal reçu. Sarraute est incomprise par le public. Pourquoi est-il encore pertinent de le lire aujourd'hui? Un projet autobiographique constamment remis en cause, une réflexion sur le mensonge dans l'autobiographie. Sarraute se dédouble pour se rapprocher de la vérité et tente de combler les vides de sa mémoire avec deux entités qui se confrontent, du personnage de l'autrice enfant et de l'autrice adulte qui pense son récit. Elle réinvente les codes du genre pour une expérience de lecture inédite. Par-dessus tout, c'est un livre sur l'importance des mots, l'écriture et la lecture y sont recréées et le lecteur y est actif. Une autobiographie brillante. C'était « Avez-vous lu? Enfance » de Nathalie Sarraute, publié en 1983, un texte d'Éden Giraud, paru le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ».
Un incontournable en Estrie, le sentier nature Tomiphobia, un texte de Alain Perra, paru dans le magazine Québec Oiseau, volume 35, numéro 3, printemps 2024. Reliant le village d'Ayerscliff à la ville de Stanstead, le sentier Tomiphobia, avec ses 19 kilomètres, a de quoi ravir les observateurs d'oiseaux. La variété des milieux, principalement naturels, qu'ils traversent, est gage de découverte d'une bonne variété d'espèces, surtout au printemps et à l'été. En 1993, Sentier Massabuipi, un organisme à but non lucratif, décide d'aménager une piste multifonctionnelle sur l'emprise d'une ancienne voie ferrée abandonnée depuis les années 1980. On souhaite y permettre la pratique d'activités de plein air, comme la randonnée pédestre, le vélo et le ski de fond. La popularité du sentier, inauguré en 1994, ne se dément pas au fil des ans. Les cyclistes, randonneurs et observateurs d'oiseaux de tout genre, ayant au fait de se l'approprier. Il est à noter que l'accès y est tout à fait gratuit, notamment parce que l'entretien est effectué par des bénévoles et qu'il bénéficie de dons et de subventions. Quant au mot « tomiphobia », il serait d'origine abénakise et signifierait « rivière sinueuse ». Plusieurs accès. Un sentier de cette envergure doit se consommer par petites bouchées, car un observateur, aussi passionné soit-il, peut difficilement envisager de le parcourir en entier en une seule journée s'il désire y faire des observations intéressantes. Qu'à cela ne tienne, il existe en tout 7 accès aménagés le long du parcours, ce qui facilite la planification de l'escapade. Chaque section, qui correspond à un site public eBird, offre des attraits qui diffèrent quelque peu, mais qui se rejoignent puisque la rivière Tomiphobia n'est jamais bien loin. Village Dyer's Cliff. La première section débute au village Dyer's Cliff et s'étire jusqu'à la borne du kilomètre 4. Après une petite plantation de pins, le sentier traverse une forêt mature, quelques champs agricoles, mais surtout des marais broussailles. Les moucherolles des aunes et des saules sont bien présents et les parulines y sont légion, comme en font foi les 18 espèces qui y sont observées chaque année, dont les parulines obscures, rayées et du Canada. Le coulicou à bec noir et le moucherolle à côté olive fréquentent occasionnellement les lieux. La base de données eBird fait état de 141 espèces observées sur cette section au fil du temps. On peut se garer juste avant le kilomètre 1 sur le chemin de Boynton. Secteur Boynton. Ce deuxième segment s'étend de la borne du kilomètre 4 jusqu'au pont de fer situé approximativement au kilomètre 7,7. Il passe sous le viaduc double de l'autoroute 55, ce qui crée une certaine nuisance sonore sur environ 1 kilomètre. Heureusement, ce secteur traverse des marécages, une forêt mature et quelques champs agricoles, ce qui en fait un site particulièrement productif. Goglu des prés, viréo à tête bleue et de Philadelphie, paruline à poitrine baie et à couronne rousse, ainsi que bruant de Lincoln sont régulièrement rapportés. L'oriole des vergers y a déjà niché, tandis que le taui à flanc roux est susceptible de s'y trouver. On y dénombre 148 espèces. Un élargissement du chemin de Boynton crée un petit espace pour 3 ou 4 véhicules à l'ombre du viaduc de la 55. Secteur Curtis. Aux yeux de plusieurs, ce troisième tronçon représente le meilleur de ce que ce sentier a à offrir. Il domine le palmarès des sites eBird du parcours avec 163 espèces répertoriées. En plus de l'étang Knight, la succession de champs, de forêts matures et de broussailles, le tout bordé de près par la rivière, permet à plusieurs espèces d'oiseaux d'y trouver leur compte. Du pont de fer, précédemment mentionné, il se termine au kilomètre 10, là où la piste quitte la MRC de Coaticook, pour entrer dans celle de Memphremagog. Les parulines y abondent, notamment les parulines à tête cendrée, triste et à calotte noire. C'est aussi un bon endroit pour observer la rare griffe des bois. C'est sur ce tronçon qu'une paruline des prés a fait accourir plusieurs ornithologues il y a quelques années. Un accès est disponible via le chemin Curtis, mais le stationnement n'est permis que du côté est de la rivière. Secteur La Flamme. Cette portion s'étend du kilomètre 10 jusqu'au kilomètre 3,4, site du mémorial d'un accident de train. Ici, au-delà des marais, ce sont surtout les prés agricoles qui dominent le paysage, parfois entrecoupés de zones forestières. Le goglu des prés est présent à chaque printemps, de même que le merle bleu de l'Est. Occasionnellement, la sturnelle des prés vient y faire son tour. Le cardinal à poitrine rose y est omniprésent. Dans les zones forestières, il est possible d'observer la grive à dos olive, le moucherol à ventre jaune et la paruline verdâtre. Sur cette section, 150 espèces sont rapportées. Au chemin La Flamme, un petit stationnement peut accueillir 5 véhicules. Secteur Tomiphobia. Cette cinquième parcelle débute au kilomètre 13,4 et se termine au kilomètre 16,5. Elle longe les habitations du hameau de Tomiphobia et offre plusieurs éclaircies le long de la rivière. Avec le segment du B, c'est une partie plutôt négligée par les observateurs estriens. Et pourtant, de belles observations sont possibles, notamment la sturnelle des prés, la bécassine de Wilson, le pioui de l'Est, les bruants des prés, fauves et des champs, ainsi que le passerin indigo. Il est fait mention de 122 espèces dans eBird. Un petit stationnement d'environ 4 places est aménagé là où le chemin Stansted croise le sentier. Secteur du B. Cette dernière partie s'étend du kilomètre 16,5 jusqu'au kilomètre 19 dans la ville de Stansted. Encore moins fréquentée que la précédente, elle parcourt une forêt mature et côtoie, dans sa dernière partie, des bâtiments de ferme et quelques terrains vagues. Grands pics, pics maculés et chevelus, tyrans huppés, ainsi que grives solitaires et des bois, y sont particulièrement abondants. Ce secteur ferme la marche avec 112 espèces. Pour y accéder, il faut privilégier le stationnement du secteur Tomiphobia, car il est impossible de se garer dans les environs immédiats de la piste du côté de Stansted. C'était un incontournable en Estrie, le sentier nature Tomiphobia, un texte de Alain Perra, paru dans le magazine Québec Oiseau, volume 35, numéro 3, printemps 2024.